L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 265e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
On ne s'est pas entendu depuis un mois et demi pour ma part.
Oui, moi j'étais là il y a deux semaines même pour...
Tu étais là, c'est vrai. Tu étais là pour le 31 décembre, tu as intervenu quelques minutes, lancé une petite blague de geek et bon. Au moins, l'écho des gnous était là au réveillon de Radio Campus. Et donc, c'est la première émission de l'année. Et donc, nous vous souhaitons une très bonne année 2024. La santé, c'est quand même plus important. Des projets de loi qui vont dans le sens d'un meilleur respect de la vie privée, des libertés numériques.
Bon, on peut rêver.
On peut rêver. Bon, au moins, des pas trop mauvais.
On peut rêver. Même,
hein. Je rappelle que, comme l'a rappelé récemment, la quadrature du net 2024 et les Jeux Olympiques vont quand même être l'opportunité pour un gouvernement peu soucieux des libertés individuelles.
Le gouvernement d'extrême droite.
Ils ne sont pas tous d'extrême droite. Il y en a, ils sont juste très à droite.
C'est ça.
C'est tout. Voilà, oui. Nous avons un premier ministre de l'aile gauche, monsieur, de la Macronie. Légèrement
ouais, blague,
à la droite de Sarkozy.
Ouais.
Donc nous allons donc vous présenter l'actualité des deux semaines écoulées, mais surtout, comme je le rappelle, j'espère que vous allez bien, vous,
des
votre
quatre
famille,
semaines
vos proches. 4 semaines écoulées, c'est vrai. Bon, il y a eu la trêve des confiseurs entre deux, donc bon, c'est pas forcément passé tant de choses que ça, mais Pierre a trouvé de l'actualité. Pierre, notre dénicheur d'actualité, notre...
On y va sur quelle section ?
Et on y va sur quelle section ? Comme d'habitude, on va commencer par la partie Internet et vie privée. Et on vous avait parlé d'un projet d'un ministre de l'Intérieur qui avait annoncé en grande pompe, enfin ministre de l'Économie et des Finances, qui est devenu ministre de l'Intérieur, également maire de Tourcoing, on ne citera pas le nom, on préfère rester poli, qu'ils allaient surveiller donc les réseaux sociaux pour vérifier le train de vie des contribuables, vérifier les annonces, s'il n'y a pas de fraude fiscale, hein, il avait dit avec toute la finesse qu'il caractérise. Si on vous voit rouler avec une voiture de luxe alors que vous êtes au RSA, c'est peut-être la voiture de votre frère ou de votre ami, mais ça se trouve, c'est pas ça non plus. Et on va quand même vérifier. Voilà, c'est fin comme du « je dirais pas, ça rimerait ». Et donc, le bilan après 4 ans d'expérimentation, donc plusieurs millions d'annonces donc, sur les principaux sites, notamment le bon coin, hein, celui-là, on va le citer, c'est quand même bon, ça fait un
c'est
peu pub,
connu.
Mais c'est quand même moins vulgaire que le nom du ministre de l'Intérieur. Et donc avec tout ça, le gouvernement, donc l'État, a récolté le fabuleux pactole de 68 000 euros.
Ça a coûté combien pour récolter 68 000 euros ?
Ça, j'ai pas dans les sources, je n'ai pas le.
C'est bizarre, hein.
Donc voilà les résultats du Big Data. Donc l'article est sur Nextlink, hein, qui a remplacé Next Impact. Ah si, j'ai quand même le prix, donc le coût de l'expérimentation donc, est estimé à 1,4 million d'euros. Bon. C'est la droite au pouvoir, ils sont forts en économie, c'est pas comme la gauche. Ce qu'ils comprennent rien en finance, ils sont dogmatiques, alors que la droite, c'est les vrais pros.
Ouais.
Okay. Donc, on n'est pas spécialement ni du tout compatissant envers les gens qui fraudent le fisc ou qui font de la fraude sociale, hein. Bien au contraire, mais bon, annoncer comme ça un projet de surveillance, alors même si c'est des données publiques, hein, puisque c'est quand on parle des réseaux sociaux ou qu'on parle des sites d'annonces, hein, c'est pour aller se connecter. Récupérer des données qui sont accessibles avec un simple compte, sans avoir de lien particulier, sans avoir d'être ami ou connecté avec la personne. Mais bon, on voit que beaucoup d'annonces et au final, peu de faits. Alors je suis curieux de savoir ce que ça donne au niveau des piscines, qui devaient aussi vérifier avec les images aériennes, les piscines non déclarées.
À la limite, ça, c'est quand même plus facile.
C'est plus facile.
Ah.
Et il y a eu quand même quelques.
Il y a eu des
masses bleues en fait qui ont été interprétées.
Une bâche et une piscine, ouais, ça
éviter,
se ressemble.
Ouais, éviter les bâches bleues, ça pourrait.
Ça pourrait mal tourner.
Même si, bon, une piscine non couverte dans le nord de la France, c'est pas très crédible, mais quand même.
Il y en a qui ont essayé.
Personnellement, je le ferai pas. Autre actualité, on va plutôt partir du côté européen. Donc, le texte définitif du Cyber Resilience Act a été finalisé. Donc, on a parlé la première fois, donc, c'était au mars ou avril dernier.
Oui.
Et donc, ce texte, alors, dans les dispositions qui étaient plutôt controversées dans le monde du livre, c'était donc la remise en cause du principe qui est marqué dans toutes les licences libres en général. C'est bien marqué quand vous utilisez Linux, quand vous lancez en ligne de commande, il est bien marqué que les développeurs rejettent toute responsabilité, déclinent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du programme et si ça fait perdre des données, ce genre de choses. Alors, je sais que Pierre, toi, tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça, même si c'est difficilement applicable dans le monde du livre. Toi, tu avais un petit peu critiqué ce principe de non-responsabilité, parce qu'au final, c'est vrai qu'avec un produit physique, on n'oserait pas écrire une chose pareille. Alors, si vous plantez à cause de votre voiture, à cause d'un défaut de fabrication de votre voiture, bah, vous allez, si vous êtes encore en vie, vous allez poursuivre le fabricant. Si vous êtes tué, vos proches vont aller poursuivre le fabricant et tout le monde va trouver ça normal. Alors que dans le cadre de l'informatique, c'est moins le cas.
Voilà, si
alors, dans le cas de l'informatique embarquée dans une voiture, tu vois.
Ah non, mais si tu veux, on prend un téléphone. Ou un ordinateur portable. Un défaut dans un logiciel fait que la machine surchauffe et brûle, et vous blesse au passage. Ah, mais le logiciel, ils ne sont pas responsables. Je suis désolé, ça ne marche pas. Alors, sur la plupart des machines, ces protections-là sont gérées par des logiciels propriétaires, mais ça n'empêche que le logiciel libre ne doit pas bénéficier d'une exclusion parce que c'est le logiciel libre. Le logiciel libre, on doit être responsable de ce qu'on fait dans la mesure de nos moyens, évidemment, dans la mesure de ce qu'on met en place. Si on fait un logiciel juste comme ça et que le logiciel derrière est utilisé par un tiers pour faire quelque chose qui peut potentiellement être dangereux, c'est ce tiers qui est responsable de l'usage, évidemment.
Alors la difficulté, c'est dans le cas d'un logiciel qui est porté par une entreprise.
Oui.
Bon, là,
l'entreprise devrait être pleinement responsable.
Le noyau Linux, par exemple, avec des milliers de contributeurs, des entreprises contributrices.
La Linux Foundation. Mais le noyau Linux en tant que tel, justement, la question n'est pas bonne. Le noyau Linux n'est pas concerné. Point.
S'il n'est pas vendu comme un produit autonome.
Exactement. C'est la différence. C'est le noyau Linux tout seul, c'est rien.
Donc, par exemple, alors, si on va prendre une distribution Linux, bon, on va dire, là, si c'est Red Hat. C'est simple, voilà, c'est édité par Red Hat. Les distributions Linux éditées par une entreprise, ça devient rare. Il y en avait beaucoup dans les années 2000.
Oui.
Maintenant, je dirais à part Red Hat avec un.
Suse
Ouais, voilà, Novell. Mais.
C'est encore Novell ?
C'est plus Novell ?
Je sais plus. Mandriva ? Si on cherche les survivants. Ubuntu ?
Mandriva, il existe encore.
Ubuntu,
encore, ouais.
Ubuntu, sinon c'est pas un exemple de truc développé par une entreprise parce qu'il y a quand même Canonical derrière.
Comme c'est pas vendu, oui, j'avoue.
C'est pas vendu,
bon,
mais.
Par contre, voilà, Debian.
Ah, Debian, non. Mais
alors, du coup, qui est responsable de Debian ? La Debian, tu viens de dire.
Mais je vais dire. Je vais dire encore la même chose. Le produit.
Là, pour le coup, c'est quand même un produit autonome et installable. Je peux installer. Je peux installer Debian, je peux installer Debian et j'ai un système complet autonome qui fonctionne.
Justement, le texte, la définition.
Ouais, c'est le vendeur d'un ordinateur sous Debian, peut-être, mais.
Voilà.
Ouais.
Ça retombe là-bas. Et donc, le vendeur d'un ordinateur sous Debian ne va pas vendre un ordinateur sous Debian parce qu'il ne pourra pas prendre la responsabilité de mettre le tampon à la place de Debian. Ça va être ça. C'est toujours ce genre de questions-là à la fin pour avoir des choses certifiées. Après, on part quand même dans de l'hypothèse. Il y a des textes qui ne sont pas encore diffusés. Il y a des guides à destination de diverses entreprises qui doivent être édités pour clarifier tout ça.
Ce qu'a annoncé la Commission européenne, donc, c'est qu'un guide devrait être élaboré à destination des petites, moyennes entreprises, des micro-entreprises, il précise, et que ça doit aussi inclure le monde universitaire et le monde du logiciel libre.
Voilà.
Alors ça reste de l'intention après.
Oui, mais sans les explications de texte, c'est quand même plus difficile de tirer des conclusions. Mais globalement, la responsabilité, elle doit être présente, elle doit être forte, et le logiciel libre n'est pas une carte de sortie de prison. C'est, sinon, c'est trop facile. Il y a tellement d'entreprises qui sont des, il y a tellement de pillards qui font du logiciel libre pour juste pour pouvoir piller d'autres projets libres et font au final quelque chose qui est juste libre par le nom de la licence et rien d'autre. Alors,
Pierre, tu parlais de pillards. Ça m'offre une excellente transition parce qu'on part de l'Europe pour aller aux États-Unis. Et donc, le New York Times attaque OpenAI pour violation. Pour violation de copyright. Donc, ils auraient entraîné leur intelligence artificielle.
Le célèbre ChatGPT.
ChatGPT, avec donc des articles du New York Times violant ainsi donc le copyright de l'éditeur du journal.
Tout à fait. Donc, la plainte reproduit différents éléments, dont notamment, en fait, ils ont réussi à faire crasher. Alors, je vous rappelle juste. Encore une fois, extrêmement brièvement, le fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle, ou plutôt des systèmes auxquels on prête une intelligence. Hein. On leur a donné plein de données, ils ont tout retenu dans des modèles statistiques, et lorsqu'on leur pose une question, à partir des mots-clés qu'on a posés, ils retrouvent des trucs qui s'approchent en modèle statistique, ils collent les morceaux ensemble, en espérant que ce soit cohérent, et vous interprétez ça comme une création trop géniale et super intelligente. Et donc, en tournant les questions dans la bonne façon, le New York Times a réussi à faire recracher quasiment mot pour mot. Il y a, sur un texte d'une page complète, il y avait une phrase ou deux qui changeaient, je crois, seulement. Ils ont réussi à faire recracher par ChatGPT un article du New York Times. C'est une violation flagrante de droit d'auteur, puisque l'article, il n'y a pas de source indiquée, il n'y a pas de signature, et ChatGPT n'a jamais été indiqué comme étant une copie, un moteur de recherche. ChatGPT, c'est indiqué comme étant des créations originales, évidemment. Alors, certes, le cerveau humain peut avoir ce même genre de problème. Le cerveau humain va avoir... C'est pour ça qu'en informatique, quand il y a des problèmes de reverse engineering, notamment pour bien séparer et éviter les problèmes de violation de copyright, il y a une équipe qui regarde le programme de départ, qui fait de la documentation, une équipe qui prend la documentation et qui fait un autre programme. C'est comme ça qu'on doit faire pour mettre une barrière entre les deux. Là, dans ce cas, dans le cas d'un texte, rien n'empêche à quelqu'un de lire, puis de réécrire quelque chose. Nous, c'est ce qu'on fait toutes les deux semaines. Finalement, on lit des actualités et on vous les redit, mais sous une forme complètement différente. Là où ce n'est pas du plagiat, et là où ce n'est pas une violation de copyright de notre part, bon, c'est que nos sources sont accessibles, et de deux, je ne suis pas là en train de lire un texte. Je ne suis pas en train de lire le texte de quelqu'un d'autre sans vous donner son nom. Ça, c'est une violation de copyright. Ce que fait OpenAI, du coup, c'est une violation flagrante de copyright. Et alors, juste pour aggraver, je trouve, leur défense, OpenAI a affirmé à travers, je ne sais plus qui de chez eux a affirmé, que les solutions révolutionnaires comme ChatGPT et Stable Diffusion ne pourrait pas être créé sans avoir accès à du matériel sous copyright. Donc en gros, l'argument c'est je peux pas devenir milliardaire sans voler une banque, donc ça devrait être légal de voler une banque.
Oui, tu auras ce genre d'argument lorsque tu es riche et puissant.
Exactement. Attention, c'est pas mais non, mais c'est grave. Donc c'est on fait de la violation de copyright.
Avec l'IA générative cette fois-ci, et donc maintenant c'est la mode. Hein, quand vous n'avez pas de graphiste sous la main, vous utilisez un générateur d'images par intelligence artificielle, ce qui donne de belles poilades d'ailleurs sur les réseaux sociaux.
Des mains, six doigts.
C'est ça, exactement. Et donc là, ça permet aussi de copier des sacs de marques de luxe. Bon, en même temps, le principe de ces marques de luxe, beaucoup, hein, c'est vous prenez leur logo et vous le déclinez de manière plus ou moins heureuse. Ça ne dure pas plus que ça.
Non, mais oui, mais le problème, c'est que c'est une nouvelle image avec des nouveaux objets et des sacs qui ressemblent à des sacs. En fait, ça fait de une photo de contrefaçon. En reprenant exactement le logo de la marque, évidemment. Et sans que ça... Alors là, les captures d'écran que j'ai. Donc c'est à travers, je ne sais plus quelle IA générative d'image. Le texte, c'est un sac à main sur une table avec le logo de la marque Chanel. Mais voilà, ça fait une image qu'on pourrait croire réelle d'un vrai sac. Mais en fait, non. Et c'est interdit. Ce genre de choses, C'est, malheureusement, ça leur appartient, leur logo, c'est fait
oui,
partie
ah
de ce qu'ils défendent.
C'est, hein. Oui, bah,
c'est leur pompe à fric, hein, leur logo, donc ils vont pas se laisser faire, mais du coup, ça va créer des situations très intéressantes. Parce qu'en plus, rien n'empêche l'intelligence artificielle de copier-coller des sacs existants sans mettre le logo, justement. Ou de mettre le logo sur un sac qui n'est
après,
pas de la bonne
marque. Après, c'est jamais que le travail d'un bon graphiste, ce que fait l'IA.
Oui, mais le graphiste fait quelque chose d'illégal quand il le fait à la main. Si l'IA le fait automatiquement, mais l'IA peut même le faire automatiquement sans qu'il le demande quand même. C'est le risque. Hein, les IA, tu sais... Si l'IA peut générer...
Oui, c'est que je demande sac à main, je demande sac à main et que je vais me retrouver avec un sac à main avec une marque de luxe sans que j'en ai demandé.
Bah, c'est possible, en fait.
Et c'est sûr, quand même, celui qui répond. Alors, qui est responsable? Celui, est-ce que c'est, du coup, l'entreprise qui a mis à disposition le code informatique permettant de le faire, ou est-ce que c'est les personnes qui diffusent?
Ben, pendant longtemps, il y avait quand même une accusation des sites de torrent ou autres d'être responsable du piratage.
Ouais, mais là,
on était responsable du piratage.
Alors, c'est différent. Les sites de torrent, non, mais c'est pas la même logique. Les sites de torrent, c'est un intermédiaire.
Oui,
il
mais là,
c'est de le faire. Et là, c'est pas un c'est pas vraiment un intermédiaire parce que
c'est un outil de violation de copyright quand même.
T'es pas un intermédiaire entre quelqu'un qui met à disposition et mais qui le fait sciemment et quelqu'un qui veut télécharger un contenu soumis au droit d'auteur sciemment également.
Si tu
me permets de le faire, dire presque à l'insu de son plein gré. C'est,
alors, si tu
c'est
me permets, attends. À propos de sciemment, je vais te citer une phrase que j'ai dit il y a quelques instants. Il serait impossible de créer des outils d'intelligence artificielle sans exploiter du matériel sous copyright. Ces personnes ont sciemment violé du droit d'auteur ces outils. Le problème, il est là à la base. Ils avaient déjà pas le droit de faire ça, et ils l'ont fait. Donc, le procès du New York Times va être hyper intéressant à suivre. Moi, j'espère tellement, mais vraiment, qu'il gagne.
Il n'y a pas de menace de procès de la part des marques de luxe. C'est quand même les premiers à protéger leur marque. Quand même. Comme tu dis, c'est leur fonds de commerce.
Alors, c'est un peu trop récent, malheureusement. La nouvelle date d'il y a trois jours, donc ils n'ont pas forcément eu le temps de réagir.
D'accord. Bon, à mon avis, ils doivent être. Il y a les services juridiques, ils doivent être en train de phosphorer actuellement.
Ouais.
Je propose que l'on diffuse un premier morceau de musique après ces actualités assez denses. Nous allons donc écouter The League, Kill the Old. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com.
Make them cold with venom around. Kill the old, the smell like the grounds. What is for
C'était The League, Kill the Old. Vous écoutez les Codes Gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campus Lille.com. C'est la deuxième partie des actualités. Allez, on continue avec de l'IA, Pierre. Microsoft
légère,
veut une touche IA sur le clavier.
Exactement, je trouve ça tellement con. Donc,
la dernière fois que Microsoft a imposé une touche avec l'ordinateur, c'était quoi? C'était il y a 25 ans, non?
C'est en 94, la touche Windows.
La touche Windows, oui.
La touche Windows et son copain pour obtenir le menu contextuel qui était conçu à l'époque pour les ordinateurs n'ayant pas de clavier, de souris à deux boutons. Parce que ça se trouvait.
Ça existait même sur PC. Pour moi, ça a toujours été une particularité de Mac.
Non, il me semble, de mémoire, ça se trouvait. Puis tu avais aussi le problème pour les machines qui n'avaient pas de souris.
Oui. Je vous parle d'un temps.
Ouais, bah écoute, je t'emmerde. Hein.
mais quelle grossièreté, Pierre. C'était pas une attaque personnelle.
Et donc,
je suis même plus vieux que toi, tu sais.
Et donc, ils ont l'intention de rajouter une belle touche sur le clavier pour juste déclencher les outils d'intelligence artificielle. Le pire, c'est que ça va être imposé, et pour vendre un ordinateur sous Windows et avoir le logo je sais pas quoi compatible Windows, les fabricants vont être vraiment obligés de mettre cette touche à la con.
C'est plus obligé de charger mon clavier, mon clé de portal, alors c'est peut-être... Mais j'ai pas de touche Windows, je viens d'y penser.
Ah bon?
Bah non.
Ouais, je suis surpris, je viendrai regarder à la pause.
Ah, mais si j'ai une touche Windows, j'ai parlé de bon endroit.
Oui, parce que c'est obligatoire en fait.
C'est obligatoire, ouais, j'ai pas regardé, j'étais pas là où je l'attendais.
Et donc voilà, ils vont juste rajouter ça. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu des articles qui reprenaient ça juste pour dire Microsoft va mettre de l'intelligence artificielle dans les claviers.
Je pense qu'il y a une légère...
Il y a une légère incompréhension, je crois. Ou très grosse. C'est juste une nouvelle touche pour une fonction complètement idiote. Et c'est vrai qu'il n'y a pas la place sur un clavier de 105 touches ou 106 touches. Il n'y a pas la place déjà sur les touches existantes pour faire ça. Donc on va introduire une nouvelle touche.
Alors la rubrique « ça ne rajeunit pas », la fin du site Ops OS 2 Archive. Alors je ne connaissais pas. Alors, je suppose que c'est des archives de
programmes
pour OS 2. D'accord.
Exactement, OS 2.
Qui était la réponse d'IBM à Windows dans les années 90.
Non. Tu te trompes.
Un peu quand même.
Ça date d'avant Windows.
Ouais, enfin, c'est ouf.
C'est la succession de DOS par IBM. Et ensuite, Microsoft, en parallèle, a commencé à concurrencer avec la création de Windows. OS 2, les premières versions, c'est la fin des années 80.
Bah, la fin des années 80, Windows existait déjà, Pierre, s'il te plaît.
Les premières versions sortent. OS 2 était développé en commun par IBM et Microsoft. Il se trouve que les ressources attribuées par Microsoft...
Mais commercialement, c'était la réponse de IBM à Windows, quand même. C'était pour reprendre la main sur les systèmes d'exploitation graphique.
Les premières
commercialement, je te dis.
Non, la première version d'OS 2 qui était vendue n'avait pas d'interface graphique. OS 2 1.0 qui était sorti.
OS 2 Warp, c'était la réponse de Microsoft.
Ça, par contre, OS 2 Warp, oui, mais beaucoup plus tard.
Cherche pas, j'aurais raison, Pierre.
Bref, ce que je trouve très intéressant, bon, déjà, c'est l'histoire de l'informatique qui n'est pas forcément très connue, illustration avec le débat si présent. Mais surtout, c'est quelque chose qui risque d'être perdu parce que ce site d'archives, les gens sont... Enfin, il faut trouver un serveur, ça ne tourne pas gratuitement. Ça nécessite de la maintenance, le matériel peut tomber en panne, ce genre de choses. Et du coup, ça peut disparaître. Et là, c'est tout un pan, finalement, d'histoire de l'informatique qui menace de disparaître. Alors, ce n'est pas du logiciel libre, clairement, je n'ai jamais défendu ça, mais c'est tout un pan de l'histoire de l'informatique, donc des années 80, des années 90... Une histoire alternative à Windows, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Microsoft n'avait pas réussi à imposer Windows. Ce genre de produit aurait pu se développer, mais ça n'a pas eu lieu. Et surtout, maintenant, si ce site ferme, on ne pourra pas retrouver les informations. Alors j'espère que d'autres feront des copies, mais c'est pas garanti et ça risque d'être quelque peu inquiétant.
On va parler donc du successeur de Microsoft en termes d'abus de position dominante, Google. Avec le DMA, Google devrait...
Le Digital Market Act.
Délier certains services. Alors, explique-nous ce que tu entends précisément par délier. Un link dans l'article.
Tout à fait. Lorsque des services sont liés, ils partagent des données entre eux. Et donc Google va juste, pour respecter la loi, interdire... d'utiliser par exemple vos consultations de mail pour vous fournir des publicités personnalisées lors d'une recherche. Parce qu'aujourd'hui, Google collecte toutes les données, qu'elles soient issues de Gmail, de YouTube, de Google Search, de Google Maps. Il collecte tout ça, il fait un méga pot pourri pour recracher dans Gmail, dans Google Maps, dans Google Search, dans YouTube. Lorsqu'il y a des encarts publicitaires, ils se basent sur tout ça. Et bien là, ils vont avoir, ils ont l'interdit. En fait, c'est une application de la loi. Ils n'ont plus le droit de faire ce genre de choses. Donc, on pourra demander à ce que les services soient cloisonnés et ne communiquent plus entre eux. Ils ne seront plus liés les uns aux autres.
On parlait du DMA, on va parler du DSA désormais, oui, du Digital Service Act. Et on va parler de sites coquins.
Oui, disons-le comme ça.
Plusieurs sites seront donc soumis au DSA. On vous passera le nom du site. A priori, il y en a un qui avait voulu tricher. Ah bah non, je l'ai pas dans. Je crois que c'était. Ah, bon, celui qui a voulu tricher, a priori, ça marche. Non ? Je sais pas.
Pas le premier de la liste qui a voulu tricher ? Je me souviens plus. Il faudrait que
je crois
les
que c'était un autre. Bon, on regarde dans la VAR.
Ouais. Donc. Le DSA, Digital, le règlement des services numériques, s'applique, enfin crée une liste des très grandes plateformes, les VLOP, avec un ensemble de règles pour que. Mais ça s'applique que aux VLOP, que à ces très grandes plateformes. Et il y a un critère important, c'est qu'il faut dépasser 45 millions d'utilisateurs en moyenne sur une période d'un mois au sein de l'Union européenne. Et étonnamment, dans la première version de la liste des VLOP, il n'y avait aucun site pornographique. C'était extrêmement surprenant. Et donc, ces petits coquins avaient probablement légèrement mal répondu sur les questions de fréquentation. Et ça va être rectifié. Donc, trois des plus grandes plateformes de contenu pornographique vont être soumises au DSA, y compris. Et donc, ça implique notamment des règles de protection des utilisateurs, des mineurs, des analyses et des atténuations sur les risques provoqués liés au service. Ça va être aussi la modération de contenus affectant les droits fondamentaux, droit à la dignité humaine, à la vie privée, en cas de partage non consensuel de matériel intime en ligne ou de deepfake pornographique. Donc ça va être très très drôle pour eux.
Qu'est-ce qu'un film pornographique qui respecte la dignité humaine,
c'est un autre sujet. Non, mais en fait, il y a un phénomène qui se répand malheureusement, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle pour produire du contenu pornographique. Et on retombe sur la discussion de tout à l'heure, les intelligences artificielles ne créent pas. Elles prennent plein d'éléments existants, elles font un patchwork. Mais du coup, vous pouvez aussi avoir des intelligences artificielles auxquelles on dit tu prends ce visage-là et le reste, par contre, tu le crées. Et le souci, c'est que ça permet de créer donc des fausses vidéos avec le visage, la tête de quelqu'un non consentant dans une vidéo pornographique. Et ça, c'est un énorme problème en ce moment. Donc que les plateformes aient l'obligation de s'attaquer à ça, ça va être extrêmement intéressant à suivre.
Une étude confirme que les moteurs de recherche concurrencent les réseaux sociaux sur la désinformation.
Étonnant,
non ? C'est pas étonnant. Donc, est-ce que ça veut dire que Google Actualité, au final, fait pas mieux que Twitter, Facebook ou YouTube, qui est également qui appartient à YouTube ? Moi, je suis toujours effaré quand j'ouvre la page d'accueil de YouTube en mode privé et que je vois ce qu'on a sans avoir de connexion à compte Google, les vidéos très douteuses, voire complotistes, qui sont en page d'accueil.
Voilà, donc il y a tout dit, hein, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir en plus, il y a les problèmes de fiabilité, et les gens, la majorité des utilisateurs ne font pas assez attention et peuvent prendre pour argent comptant les éléments apportés par Google lors d'une recherche.
Donc, alors, dans les GAFAM, il y en a un dont on n'avait pas parlé, bon, peut-être même deux. Apple, défenseur de la vie privée, en tout cas, c'est leur argument commercial, on est mieux que Google, mais bon, quand on est en Chine, on respecte quand même la loi chinoise, faut pas déconner.
Là, c'est quand même un peu plus large que respecter la loi chinoise, je trouve. Ou alors, la loi chinoise est quand même vachement moche. C'est en gros... alors, AirDrop, qui est un service de partage de fichiers sur périphérique Apple, lorsque vous utilisez AirDrop en Chine, le gouvernement chinois récupère toutes les données. Grosso modo, hein, ils ont ouvert au gouvernement chinois les données d'AirDrop. J'avoue que là, ça me paraît quand même très extrême. Je ne sais pas s'il y a une loi qui impose ça, mais en tout cas, c'est une bonne collaboration.
C'est la loi chinoise, hein. Si c'est la volonté du parti, Pierre, parce que ça fait office de loi. On parle logiciel libre. Après un deuxième morceau de musique, nous allons écouter Kinematic Monday AM. Vous écoutez les codes des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'était Kinematic Monday. Vous écoutez les Codes Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la troisième partie des actualités. On va parler logiciel et bien évidemment logiciel libre. Et on va commencer avec Gnuplot, qui est donc un logiciel de visualisation de graphiques mathématiques, donc 2D et 3D. Alors, j'ai dit à tort que c'est un équivalent de MATLAB, mais tout de suite, pire.
Hors antenne.
Oh là, mon Dieu, non, ça fait bien plus que ça.
Mais MATLAB fait plus que Gnuplot.
Pendant les études, on a quand même. Enfin, je pense que pour beaucoup d'étudiants en sciences et de lycéens, c'est quand même ce qu'on a vu de MATLAB.
Tout à fait. Alors, je ne vais pas m'amuser à lister le détail des fonctionnalités, je voudrais juste revenir.
Merci, Pierre. Donc.
Bah non, mais le détail des fonctionnalités de Gnuplot, ça ne va pas intéresser grand monde. Je voudrais juste revenir sur un point qui me semble quand même assez important, c'est que c'est l'un des plus vieux logiciels libres encore en développement actif, puisque ça fait 38 ans. Il est en développement depuis 1986, et la version précédente est sortie en 2015. Donc, c'est pas parce qu'un logiciel existe depuis longtemps qu'il n'est pas maintenu, qu'il n'est pas mis à jour, et qu'il n'est pas aussi intéressant. Parce que, on peut trouver des exemples de courbes en ligne qui fonctionnent très bien, des réalisations graphiques, parfaitement, enfin propre, lisible, beau, pour ceux qui trouvent la beauté dans les courbes et les graphiques, je suis désolé, faut pas déconner non plus. Mais voilà, c'est, on peut faire des choses comme ça avec GnuBot, et surtout, c'est encore maintenu. Donc, si vous êtes scientifique, si vous avez besoin de faire ce genre de contenu, si même vous voulez juste utiliser ça pour illustrer des cours ou des choses comme ça, c'est une bonne solution technique et ça permet de faire aussi quand même pas mal de choses. On peut même dessiner on peut même faire des dessins complets, donc représenter la planète, ce genre de choses, hein, vraiment. Ça va assez loin.
Autre logiciel, Scribus 1.6 est sorti, donc il fait partie donc des familles des logiciels de publication assistée par ordinateur, alors qui est plus très à la mode auprès des utilisateurs, on va dire, grand public.
C'est ouais, non. C'est
familial, hein, le
Microsoft Publisher.
Ouais, c'était Microsoft Publisher, mais voilà, c'était dans les années 90.
Le problème, en fait, pour les logiciels de PAO, c'est Word. Word est un mauvais traitement de texte et un mauvais outil de PAO. Mais du coup, ça a cassé le marché. En fait, Word se situe à la frontière entre les deux, alors que les deux sont complètement différents. Et donc, ça a donné cette déjà, ça a fait que...
Après, tu me définisses ce que serait un bon traitement de texte, du coup. Je suis assez perplexe.
Word, fichier mis en page. Déjà, tu t'arrêtes là. Ça, c'est déjà une première hérésie. Word, tu manipules pas un flot de texte que tu mets en forme. Tu as la notion de page qui est quand même encore présente. Et au niveau de la mise en page, notamment, tu as des éléments qui sont clairement de la PAO et pas du traitement de texte. Le traitement de texte, vraiment, tu traites un flot de texte, d'où le nom. Les traitements de texte sous DOS marchaient très bien et on pourrait très bien imaginer aujourd'hui un traitement de texte sans mise en forme comme ça et sans avoir la gestion de la pagination lors de l'édition. C'est un élément
extérieur.
Ah, mais
est-ce que ça répond aux besoins du public, du grand public?
Le grand public, il n'a pas besoin de rédiger plus de deux pages en général, donc déjà oui. Mais, et la PAO, par contre, c'est la production d'affiches, de livres, de brochures, de ce genre de choses. Et là, c'est plus de magazines, de journaux. C'est plus un flot de texte, c'est des blocs de texte que tu vas mettre en page. C'est plus du tout le même besoin. Et les outils de traitement de texte modernes comme Word ou LibreOffice permettent de faire de la PAO, mais de beaucoup moins bonne qualité que ce qu'on peut faire avec un Scribus, un Quark Express de mémoire, l'équivalent chez Adobe.
Ouais. Qui est, alors, je crois, la solution professionnelle
la plus utilisée sur le domaine. Je ne saurais pas dire ce qui est devenu Publisher. Hein. La dernière fois que j'ai utilisé, ça devait être il y a 20 ans. Donc, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je ne sais même plus si ça existe encore. Ça, c'était l'outil de Microsoft.
Je crois que c'est... Attends, télécharger Publisher. Microsoft. Alors, on regardait sur Wikipédia.
Bon, pendant ce temps, je parle de Scribus. Hein,
dernière version 2019.
Et merde, c'est encore maintenant. Ouais. Incroyable. Et donc, Scribus, ben, ça faisait très très longtemps qu'on attendait cette nouvelle version stable. Ça m'embêtait beaucoup. Parce que Scribus fait partie des vieux logiciels à avoir un numéro de version qui dit version stable, instable. Donc, la 1.4, la dernière version stable, date d'il y a 10 ans au moins. Peut-être même 15. Et pendant ce temps, ils ont sorti plein de versions en 1.5, mais des versions dites instables, qui étaient en fait beaucoup plus stables et fonctionnelles que la 1.4, mais les vieilles méthodes de développement. Et donc là, c'est officiellement, la version 1.5 est terminée, et c'est devenu la version 1.6. Grosse mise à jour de partout, amélioration de performance, amélioration du rendu de texte, amélioration des imports-exports, c'est plein de choses.
Elles sont bien.
Pardon ?
Elles sont bien.
Ah oui, non, c'est plutôt bien. J'ai un pote qui fait un bouquin avec Scribus et ça marche vraiment nickel. Et ce qu'il fait ne serait pas faisable facilement avec un traitement de texte. Le traitement de texte, il implose parce que c'est pas fait pour.
Alors, on n'a pas l'habitude de vous parler de toutes les mises à jour, toutes les nouvelles versions de Firefox. Mais cette fois-ci, oui. Pierre, avec l'année de Wayland pour Linux, tu veux nous parler de la sortie de Firefox 121.
C'est ça. C'est juste...
Là, on n'est pas du tout sur le même modèle de numéro de version.
Ah non. Non, là, on est sur le modèle de numéro de version des gens sous LSD. Non, enfin, version 121, ça me dépasse. Je ne comprends vraiment pas l'intérêt. Mais donc, Firefox... est à la version 121, et la grande nouveauté, c'est que désormais sous Linux, c'est l'utilisation par défaut, si vous êtes sur une session graphique moderne avec Wayland, c'est l'utilisation donc de Wayland par Firefox. Et l'année 2024, là, qui arrive, avec les nouvelles versions majeures de KDE, de GNOME, et les nouvelles versions de distribution, ça va être l'année finalement de la transition vers Wayland pour les ordinateurs sous Linux.
Est-ce que ce sera encore l'année du desktop pour Linux?
On est à presque 4% de part de marché, paraît-il, mais... il faudrait que SteamOS se développe. Clairement, le meilleur espoir pour le bureau, enfin le marché du grand public Linux, c'est SteamOS actuellement.
Depuis deux semaines, nous sommes en 2024. Et en 2024, Pierre, tu veux nous signaler qu'un lecteur flash et toujours en développer un lecteur flash libre.
Tout à fait. Et on retombe un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure avec OS2. Flash, donc le format propriétaire d'animation pour le web, n'est plus développé, n'est plus maintenu par Adobe depuis longtemps, plus géré par les navigateurs web, mais des personnes veulent le faire survivre parce que c'est du contenu, c'est de la création, c'est de l'art. Vraiment, c'est du contenu artistique qui a été créé et qui risque d'être perdu si on n'a pas de lecteur moderne pour décoder ce format-là. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est le projet Ruffle qui permet de gérer Flash comme ça. Et ça permet de lancer différents vieux jeux, différents, de regarder des animations, des vidéos réalisées avec Flash. Allez, à la grande époque, comme on peut dire.
On va parler de Google, donc l'IA, ça peut être également, alors on vous parle souvent dans les médias généralistes, des suppressions de postes, que va entraîner l'IA, que ça va mettre du monde au chômage, bon, c'est toujours des promesses un petit peu apocalyptiques. Là, il y aurait donc de sérieux bruits de couloir, donc que Google pourrait supprimer jusqu'à 30 000 postes. Donc dans un premier temps, plutôt le redéployer, donc il n'y a pas eu d'annonce vraiment officielle, donc c'est des sources auprès de Google, donc sur dans les domaines donc marketing,
publicité.
La publicité, donc sur pas dans le, donc pas dans le cœur de domaine de Google, donc qui est, on va dire le développement d'applications, à savoir effectivement est-ce qu'ils ont besoin de 30 000 personnes qui bossent dans la pub en sachant que c'est quand même des algorithmes qui définissent la place.
Alors, pour être plus précis, c'est parce que les annonceurs utilisent un autre outil de Google maintenant qui n'a D'accord. plus besoin de ces personnes là. Et c'est un outil qui est vendu comme étant basé sur l'intelligence artificielle, mais je ne serais pas surpris que les annonceurs aient plus de travail à faire avec ça.
Ouais, c'est ça, qu'on déchargerait une partie de la charge de travail chez les annonceurs.
Ou ils suppriment le travail en faisant semblant que ce n'est pas nécessaire.
Merci bien, Pierre. Quelques nouvelles encore. En bref, le décès de Niklaus Wirth. Que tu voulais,
tout à fait. Ben oui, c'est un grand nom de l'informatique et ce genre de personnes. Voilà, on va parler dans les médias grand public. On parle des décès des grands patrons de l'informatique, mais on va jamais parler de ce genre de personnes. Donc Niklaus Wirth, qui est le créateur du langage de programmation Pascal et de toute une poignée d'autres langages de programmation des années 1960 à 2000. Donc les Oberon, les Free Pascal, les Modula, Algol, beaucoup de langages de programmation, y compris des trucs dont moi j'utilise des langages qui sont dérivés de ça encore aujourd'hui. Et cette personne donc, a eu différents grands prix, et finalement, quand on regarde sa vie, c'est resté un geek jusqu'au bout. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il était encore actif, il publiait encore des choses, c'était un grand nom de l'informatique qui s'éteint.
Il y a un parti politique dont on ne parle pas et dont on aimerait ne pas parler beaucoup, mais des fois ça nous amuse un petit peu, un ancien cadre du Front National qui n'assume pas et ses accointances néo-nazis passées, en tout cas officiellement passées, et qui a demandé donc du coup supprimer des articles pour faire respecter son droit à l'oubli, sauf qu'il y a un moment, il faut aussi assumer ses actes.
C'est ça, et il avait déjà eu des déboires avant là-dessus et il avait déjà essayé, ça avait échoué. Mais là, en fait, le monsieur, il recommence plus tard en disant bon, c'est passé en douce. Donc, alors, tout le monde a refusé. L'article, en fait, il accuse l'article d'être diffamatoire, mais le Conseil d'État dit que l'article est de bonne foi. Et donc,
des propos diffamatoires ne veut pas dire que c'est faux.
Exactement.
Attention, mais ça, c'est la petite nuance. Quand,
petite nuance, tout à fait.
Quelqu'un perd un procès en diffamation, mais dit oui, on a quand même reconnu que les propos étaient diffamatoires. Si la personne a été relaxée, c'est une des raisons c'est pour lesquelles ces propos peuvent être vrais. Hein, il y a eu notamment du coup l'opposante au Front National à Hélène Beaumont qui avait gagné un procès qui avait été un peu tenté en diffamation et du coup qui avait mis en avant les frontistes, c'était oui mais ça a été reconnu comme diffamatoire, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Et dire que c'est un titre attente à l'honneur. Et il ne faut pas grand-chose pour... pas forcément beaucoup d'honneur.
Et dernière tentative de défense de leur part, c'était se protéger derrière le RGPD pour dire vie privée. Sauf que le RGPD dit bien que ce genre d'information fait partie d'une catégorie particulière de l'article 9 du RGPD. C'est considéré comme ayant été manifestement rendu public dès lors que le groupe auquel il appartenait a produit un disque. Donc c'est un groupe de musique néo-nazi apparemment. Et qu'il a exercé des fonctions de responsabilité au sein du Front National. Donc l'association, un cadre du Front National dans un groupe de musique néo-nazi. Et c'est une information basée sur des éléments publics.
On remarquera que chez les fachos, on aime bien dénoncer l'Europe, mais on aime bien aussi utiliser la réglementation, les lois européennes concernant les droits de l'homme. C'est quand même les champions du recours à la Cour européenne des droits de l'homme.
Exactement.
Tout en dénonçant le droit de l'homisme et les réglementations européennes. C'est toujours un petit peu rigolo. Pierre, une dernière actualité pour la route ?
Oui, est-ce que tu te souviens de 1928, toi ?
J'étais pas bien vieux, mes parents non plus, mes grands-parents, peut-être.
Voilà, c'est vraiment, on parle de ce genre de choses. Enfin, ça va loin, quoi. Trotsky était encore vivant, Staline, c'était vraiment une autre époque. Pourquoi qu'on parle de ça ? Eh bien, aujourd'hui, là, 1er janvier 2024, Mickey, ou en tout cas la première vidéo de Mickey qui a été créée en 1928, est enfin passée dans le domaine public. 96 ans. Pendant 96 ans, les ayants droit ont continué à engranger du pognon sur une création. La création n'a pas... En fait, c'est...
Je pensais que ça arriverait jamais, parce qu'on connaît un petit peu les...
Ils ont fait des extensions spécifiques.
Ouais,
hein,
c'est ça, c'est-à-dire la capacité de lobbying que peut avoir l'entreprise Walt Disney.
Mais 96 ans, ça a été terriblement long. Et il y a déjà du coup des jeux vidéo d'horreur, j'ai vu notamment, qui utilisent le personnage de Mickey, qui sont sortis. Parce que il faut laisser les gens créer. Maintenant, c'est le domaine public et c'est lutter contre le domaine public et c'est créer de la propriété privée éternelle. Donc, il était temps que ça s'arrête.
Merci Pierre. La dégicalisation, c'est tout de suite. Après un troisième morceau de musique, nous allons donc écouter Great White Buffalo, I'm Growing Fangs. Vous écoutez Décoder News sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Growing fangs for you.
C'était Great White Buffalo, I'm Growing Fangs. Vous écoutez les codes Gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, le sujet du jour, le marketing versus la compréhension des générations de processeurs, ça risque d'être un chouïa technique.
Pas tant que ça, ça devrait tenir.
Moins technique qu'annonce...
Ça va surtout être poussiéreux. On va commencer déjà par un petit rappel historique. Il y a longtemps, très longtemps, les processeurs, ça avait été le 86, le 186, le 286, 386, 486, puis vinrent
le 586 qu'on a appelé Pentium.
Pentium et le 686 Pentium Pro. En parallèle, vous pouviez prendre des processeurs pas Intel, des processeurs d'AMD, de VIA, de Cyrix, qui étaient...
Mais qui étaient quand même des clones...
Des clones et qui étaient marqués clairement comme étant, ben ça c'est un AMD 580, l'AMD K5, l'AMD K6, c'était équivalent de 586, 686, c'était vendu comme tel. Et donc pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on avait fait ça à l'époque ? C'est pas parce que juste on a augmenté la puissance du processeur, c'est parce qu'on y a ajouté des fonctionnalités. Alors, je vais pas vous retrouver tous les détails des changements de l'architecture, mais on y a ajouté le support de nouvelles instructions qui, derrière, étaient utilisées par les programmes. Et lorsque vous vouliez installer un logiciel sur votre ordinateur, vous deviez vérifier les prérequis matériels et ça disait, il vous faut un processeur 586 ou mieux, 686 ou mieux, etc. En général, avec une équivalence vers les gammes commerciales d'un ou deux fabricants. Maintenant, venons dans le futur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, ne serait-ce qu'une seule fois, pour un processeur 64 bits de type AMD 64 ou x86-64, selon la façon dont vous voulez le dire?
Ouais, mais alors on achète beaucoup. Alors c'était à l'époque où on achetait des logiciels au magasin, on regardait la boîte. Maintenant,
souvent, les télécharges, il y a le même problème.
Ouais, mais du coup, t'as plus ce côté... le fait est que souvent, c'était pour les jeux. Ça concerne quand même surtout les gamers.
Là, ça concerne... Ce que je vais indiquer là va concerner malheureusement tout le monde. Et on a un gros problème. C'est que depuis 2003-2004, la sortie de l'AMD 64, du 64 bits pour PC, il n'y a jamais eu d'évolution comme ça. En tout cas, elle n'a jamais été communiquée. Est-ce que ça veut dire que pendant ce temps, les processeurs ont stagné, n'ont pas eu de nouvelles instructions ? Ben si, ils en ont eu plein, des hyper importantes pour les performances justement, parce que si votre processeur peut faire plus de choses en même temps, il faut lui dire de faire plus de choses en même temps pour qu'il puisse exploiter toutes ses capacités. C'est aussi simple que ça. Et donc, il n'y a pas eu d'évolution. Donc aujourd'hui, quand on prend un logiciel AMD 64, il est censé être compatible avec le premier processeur Athlon 64 sorti il y a 20 ans. Et ce statu quo va bientôt changer. Et il y a un gros souci, c'est que on n'a plus de clarté sur le nommage. Intel, sur les processeurs depuis 20 ans, ça a été Pentium M, Pentium 4, Core Duo, Core i, 3, 5, 7, selon le pognon que vous mettiez dedans. Et c'est tout. Il n'y a pas eu d'évolution. Le marketing a dit, c'est comme ça, et on met juste un chiffre derrière qu'on augmente.
C'est vrai que...
AMD, c'est pareil.
Tu peux voir un Core i5 d'il y a 10 ans, faut regarder la référence précise. Mais même moi, tu sais, pourtant, je connais un peu l'informatique.
Oui.
Je sais...
Et bien maintenant, je te mets face à un autre problème. Microsoft a le même problème que nous, que les distributions Linux sur ça. Microsoft annonce là la fin du support de Windows 10 et il y a des centaines de millions de machines dans le monde qui sont incompatibles Windows 11 à cause des prérequis de processeurs. Je te le dis, attention, Microsoft ne supporte officiellement ce système d'exploitation que sur des appareils avec un processeur Intel Core de 8 générations ou plus, sauf exception mineure, ou un AMD Ryzen CPU de 2e génération ou supérieure. C'est illisible. C'est absolument illisible. Attention avec des exceptions, etc.
J'ai un Ryzen, je ne sais même pas quelle génération il est.
Oui, parce que c'est pas clair, parce que le marketing dit c'est bon, faut pas le dire, faut cacher. Et du coup, ça ne veut plus rien dire. Et en fait, c'est parce que. Pourquoi Microsoft fait ça ? Ils veulent utiliser les nouvelles fonctionnalités pour améliorer les performances, diminuer la consommation d'énergie, améliorer le système pour tout le monde. Les distributions Linux font pareil. Elles sont en train de dire, on va arrêter de se baser sur le x86-64 V1, on va passer au V2 ou au V3. Votre processeur, il ne le dit pas, ça. Personne ne le dit, c'est une création qui est venu bien plus tard, en 2020, c'est vraiment tout récent, où on a commencé à dire, bon, bah, en fait, le V1, c'est tout le monde, le V2, c'est les processeurs à partir d'environ 2009, le V3, c'est à peu près 2015, c'est ce que suit Microsoft aussi, mais... Alors, Microsoft, ils ont rajouté des contraintes en plus, avec leurs histoires de deuxième génération ou autre, mais tout ce bazar-là, bah, ça va finir par retomber sur les utilisateurs, parce que demain... Alors demain, c'est probablement dès cette année, peut-être l'année prochaine, pour télécharger une distribution Linux, pour télécharger ben, une nouvelle version de Windows, on va vous dire, oui, mais votre machine, est-ce qu'elle est compatible AMD64 V3 ou est-ce qu'elle est en V2 ou au contraire, est-elle en V4? Ça va être le chaos juste parce que le marketing s'est dit, non, la technique, c'est mal. C'est mal de montrer aux gens, de dire aux gens, de mettre des informations techniques accessibles. Il faut tout cacher. On va dire, c'est un Core Duo, c'est un Core i7. On va mettre ça, c'est joli. Ça fait une belle petite étiquette. Et puis ça évite de changer l'étiquette lorsqu'on change de génération. Tout ça pour ça. Donc au final, aujourd'hui, bah, on va payer. Il va falloir finir par payer le prix du marketing en ayant des difficultés à savoir si je peux faire tourner mon logiciel, enfin le logiciel qui m'intéresse, est-ce que je peux le faire tourner sur ma machine ou non. Alors moi, mes machines sont récentes, je ne vais pas être trop concerné par ça, mais je sais que dans ma famille, il y a des machines que je maintiens, pour certaines depuis largement plus que 10 ans, et donc je sais que je vais avoir ce problème-là, des machines où je vais devoir essayer de déterminer est-ce qu'on est en V1, en V2, en V3, et du coup, quand il va y avoir les transitions, devoir anticiper et dire, il y a un problème, il faut retrouver des équivalents plus vieux, etc. Ça va être très très amusant, et j'ai vraiment pas envie de faire ce genre de choses. Donc, pas merci le marketing pour avoir créé la complexité et nous avoir empêché de nommer les choses. Avoir finalement nié que le matériel doit évoluer. Il reste compatible avec ce qui avait été fait avant, mais il y a des nouveaux paliers qui sont atteints et il faut qu'on les logiciels peuvent cibler les nouveaux paliers, mais il faut que ça puisse être clairement dit. Et aujourd'hui, c'est toujours pas le cas.
Merci Pierre pour cette dégeekalisation instructive. Comme d'habitude, un petit point sur l'agenda. Exceptionnellement, la permanence du dernier mardi de janvier, enfin du mois, n'aura pas lieu le dernier mardi, mais aura lieu donc le jeudi 25 janvier à 20h. Donc ce sera un jeudi du libre au Café Citoyen, comme d'habitude. Place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, métro République Beaux-Arts. Juste pas d'inscription, pas de droit d'entrée, mais on va juste vous demander de prendre une consommation équitable et bio. Excellent choix de bière, de jus de fruits.
De jus de fruits.
De jus de fruits, de très bon.
Très bon, leur jus de fruits.
En tout cas, venez-y, c'est sympa. Et l'événement de l'année dans le libre, le Fosdem, week-end du 3 et du 4 février, Pierre tissera peut-être.
Donc, je dois y parler le vendredi.
Il n'y aura pas émission retour de Fosdem cette fois-ci. Mais en tout cas, Pierre, tu nous feras si tu,
un peu. Je ferai un retour dans la semaine suivante.
La semaine qui suivra.
Donc dans deux émissions.
On se retrouve quant à nous dans deux semaines pour les Connect Nous 266. Nous serons donc le dimanche 28 janvier de 19h à 20h comme d'habitude. La semaine prochaine, ce sera du jazz, ce sera la deuxième ligne, une émission musicale centrée sur les brass bands et la Nouvelle-Orléans. Un très beau programme en perspective. Tout de suite, on se retrouve comme depuis les débuts de cette émission, juste après nous avec Chupa Pimento de la musique électro. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Encore une fois, bonne année.
Bonne année, meilleurs vœux.
De bonheur,
bonne santé.
De santé et tout le reste. Au revoir à tous.
Bye bye.
Les codes GNU, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des glues.